L'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 mars 2014, en direct du studio 13 ici à Washington. Bagassi Koura et Morgan Guiriek. Bonsoir Morgan.
Bonsoir Bagassi. Bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, la Centrafrique, manifestation à Bangui contre l'assassinat la nuit dernière d'un jeune homme. Les autorités camerounaises soupçonnent Boko Haram d'avoir attaqué un marché hier à la frontière avec le Nigeria et le Tchad.
Deux éléments du Boko Haram sont venus en moto, je vous dis en plein marché, là où on vend le carburant. Ils ont tué deux militaires et un élément du BIR qu'on a égorgé. En plein journée, personne n'a intervenu.
Les États-Unis et d'autres puissances occidentales font tout pour que le référendum sur le statut de la Crimée n'ait pas lieu. Où est donc passé le Boeing 777 de Malaysia Airlines? Le mystère reste entier. Il ne s'agit pas de la première disparition d'avion.
La première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître.
Ce soir aussi, visite du Kalakuta Museum à Lagos au Nigeria, un musée entièrement dédié à la vie et à l'engagement politique du grand musicien Fela Kuti. Et comme chaque jour, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Manifestation aujourd'hui au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui, la capitale centrafricaine. Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'assassinat la nuit dernière d'un jeune homme dans le secteur. Le point avec Timothée Donangmaï.
Venus des quartiers Bibale et Béarex, les manifestants ont érigé plusieurs barricades et brûlé des pneus sur l'avenue Boganda. Pour eux, les assassins du jeune homme sont sans doute des musulmans armés. Jérôme Kemba, un des mécontents.
Vraiment, nous avons assez marre dans notre secteur. Trop de morts dans deux ou trois jours. Les musulmans qui sont juste derrière le quartier Bibale sont venus tuer une maman folle. Ils ont tué encore un jeune homme dans le quartier. Et ce matin, nous avons vu encore un jeune dans notre quartier qui était tué. La raison pour laquelle nous avons révolté pour dire à notre gouvernement, depuis des temps, nous souffrons ici dans le quartier. Il y a trop de morts.
Ousmane Abakar, porte-parole des musulmans centrafricains, rejette en bloc ces accusations. Les gens veulent nous faire porter le chapeau pour rien. Les musulmans n'ont tué personne, a-t-il fait savoir. Les barricades ont été levées quelques heures plus tard par des soldats de la MISCA intervenus pour disperser les manifestants. Jusqu'en fin d'après-midi, la circulation n'avait pas encore repris sur une partie de l'avenue Boganda. Face à la persistance de la violence dans le pays, la présidente intérimaire Catherine Samba Panza a créé jeudi par décret un Conseil national de sécurité, conseil qu'elle présidera avec le Premier ministre et qui se réunira une fois par semaine. Toujours à Bangui, le Parlement provisoire centrafricain a lancé officiellement aujourd'hui son dernier grand chantier, les travaux de rédaction du nouveau projet de constitution.
Voilà, ils sont donc de plus en plus nombreux à traverser la frontière camerounaise pour fuir le conflit en RCA. En un an, le Cameroun a reçu plus de 44 000 réfugiés de la Centrafrique. Les nouveaux arrivants vivent dans des familles d'accueil, des mosquées, des églises, stades et autres sites de fortune. Des réfugiés qui arrivent épuisés, sous-alimentés et malades au Cameroun. Gerassem Mbayorem du ACR au Cameroun nous explique pourquoi.
Au cours de la fuite pour traverser la frontière, ils doivent se cacher des semaines dans la brousse pour ne pas être victimes des attaques et marchent des semaines aussi, voire plus d'un mois. Il y a des groupes qui nous ont dit qu'ils ont dû marcher 40 jours pour traverser. Donc les gens restent en brousse sans manger, sans boire et donc quand ils arrivent, ils sont pour la plupart malades. La semaine dernière, un groupe de 270 personnes ont traversé la frontière. Ils ont fait 40 jours de marche. Ils ont perdu 15 enfants parce que ces enfants n'avaient pas mangé. Les milices anti-Balaka se trouvent un peu partout, donc il faut s'assurer du bon chemin à prendre et donc pendant ce temps, on se cache dans la brousse. C'est pourquoi d'ailleurs, elles prennent autant de temps pour pouvoir franchir la frontière.
Boko Haram accusé d'une nouvelle attaque au Cameroun. Les autorités camerounaises soupçonnent la secte islamiste nigériane d'avoir pris pour cible un marché hier près de Kousséri, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. On compte au moins un soldat tué. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Les assaillants sont entrés au Cameroun à travers les frontières poreuses. Selon les habitants de la zone attaquée, ils ont tiré sur le soldat. Mahamad Jibril, un homme d'affaires, dit avoir été témoin de l'assaut.
Deux éléments du Boko Haram sont venus en moto, je vous dis en plein marché, là où on vend le carburant. Ils ont tué deux militaires et un élément du bir qu'on a égorgé. En plein journée, personne n'a intervenu.
Awa Fonka Augustin, gouverneur de la région camerounaise de l'extrême nord, affirme que le calme est revenu dans la ville. Il pointe Boko Haram du doigt, mais le ministre de la Communication est resté prudent. Issa Turoma Bakari affirme que l'attaque est l'œuvre d'insurgés étrangers venant d'un pays voisin frappé par une crise religieuse. Mais il n'a pas spécifiquement nommé Boko Haram.
Il y a eu cet affrontement entre les Boko Haram et les forces de défense qui étaient sur place. Et à l'heure où je vous parle, l'ordre est rentré dans la ville. C'est l'occasion pour moi de demander aux populations d'être calmes, d'être assurées que les forces de défense sont là pour assurer leur sécurité.
Une fusillade a par ailleurs provoqué la panique dans un convoi de réfugiés tchadiens fuyant les violences sectaires en RCA. Certains redoutent de poursuivre leur voyage.
Nouvelle attaque à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria. Des tirs nourris ont été rapportés ce matin dans la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Les islamistes de Boko Haram sèment régulièrement la terreur dans cette région. Armés d'explosifs, les assaillants ont pris pour cible une caserne militaire. Une riposte de l'armée a suivi. Le ministre de la Défense pense qu'il tentait ainsi de libérer des frères d'armes détenus dans la caserne.
Les assaillants ont également mis le feu à des maisons et ouvert le feu sur des civils. À en croire les autorités, le bilan est lourd du côté des terroristes. Elles comptent également 4 soldats blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée.
Et dans le nord du Mali, l'enfant terrible du djihad Omar Ould Amaha aurait été tué par les forces françaises de l'opération Serval la semaine dernière. Originaire de Gossi, dans la région de Tombouctou, l'homme à la barbe teintée était un caïd du Moudjahou. Sa tête avait même été mise à prix par les États-Unis pour 3 millions de dollars de Gao. Le reportage de Boubacar Touré.
Ce qui nous intéresse, c'est la pratique de la charia. On considère la puissance occidentale, la puissance européenne et la puissance orientale. Pour nous, ce n'est qu'une toile d'araignée.
C'est la voix de Omar Ould Hamada, très connu à Gao sous le nom de Omar en sardine, l'homme à la barbe teintée. Une source sécuritaire malienne confirme la mort de Omar Ould Hamada, mort survenue lors des frappes de l'aviation française dans le nord du pays la semaine dernière. On se rappelle que sa tête était mise à prix par les États-Unis d'Amérique pour 3 millions de dollars. Ce grand djihadiste est de nationalité malienne, originaire de Tombouctou, plus précisément de Gossi, où résident encore ses parents. Proche du chef djihadiste Mokhtar Ben Mokhtar, Omar Ould Hamada fut membre du groupe Ansardine à l'arrivée des djihadistes à Gao, puis devient membre du Moudjahou, dont il devient porte-parole avant de créer sa propre katiba, Ansar al-Sharia. Il faut le rappeler, Omar Ould Hamada conduisait en 2009 le véhicule dans lequel ont été transférés deux diplomates canadiens enlevés au Niger. Très connu pour ses fanfaronnades, Omar Ould Hamada a quitté la ville de Gao avant les premières frappes de l'aviation française. La mort de Omar Ould Hamada est une information à prendre avec des pincettes, puisque plusieurs fois on annonçait sa mort, mais réapparaît toujours. Gao, Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
Les États-Unis mettent en garde leurs citoyens contre tout voyage en Mauritanie. Le département d'État demande à ceux qui se déplacent dans le pays de faire extrêmement attention en raison des groupes terroristes opérant dans la région, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Au Togo, les 5 partis parlementaires ont rencontré le Premier ministre. Des consultations posant la question suivante. Quel cadre pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo? Compte rendu avec Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
Pour le parti au pouvoir unien, il y a nécessité de trouver un consensus autour des points de ces réformes, peu importe le cadre. Consensus, c'est ce que souhaite l'ANC de Jean-Pierre Fabre, qui estime que le Parlement est un cadre qui ne s'y prête pas, de par son caractère de la loi de la majorité. un point de vue qu'épouse partiellement l'Alliance démocratique pour le développement intégral, a dit souhaite un élargissement du cadre aux autres partis politiques, mais aussi à la société civile. Si, in fine, les propositions doivent passer par l'Assemblée nationale, la coalition Arc-en-Ciel propose la création d'un cadre ad hoc pour des discussions préalables, toujours dans un souci consensuel. L'Union des forces de changement est formelle, point besoin de discuter en cœur. L'UFC de Gilles Christ Olympio invite le gouvernement à prendre les résultats issus du cadre permanent de dialogue et de concertation CPDC et demande aux acteurs politiques d'y apporter des améliorations si besoin, afin que les réformes soient faites dans les meilleurs délais. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Malaisie affirme avoir élargi le champ de recherche du Boeing 777 disparu il y a une semaine. Le ministre des Transports a déclaré que des circonstances non spécifiées ont forcé à étendre la recherche à l'océan Indien, une zone pourtant située à des milliers de kilomètres de l'endroit où l'avion a disparu des écrans radars. Il indique que la recherche a également été étendue à des régions reculées de la mer de Chine du Sud. Les avions militaires indiens ont survolé les îles Andaman et Nicobar à la recherche de l'avion. La région est composée de plus de 500 îles, pour la plupart inhabitées et densément boisées.
Attentat suicide dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe visait un véhicule blindé de la police de Sarban, près de Peshawar, non loin du bastion des talibans. D'après les autorités, le véhicule s'était arrêté pour faire de l'essence quand l'attaque a eu lieu. On compte 7 morts et au moins 28 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué. Rappelons que les pourparlers entre le gouvernement et les talibans sont chancelants.
Et puis un cadavre bien embarrassant pour Pékin. Un militant chinois des droits de l'homme à qui on avait refusé des soins médicaux est mort en prison après être tombé gravement malade. Cao Chuli est décédé dans un hôpital de Pékin après que les autorités lui ont permis d'y être transféré récemment. La dissidente de 52 ans souffrait d'une maladie du foie et de la tuberculose. Voilà pour le journal. Au micro, Bagassikoura et Morgane Guiriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Voilà. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales font donc d'ultimes efforts pour que le référendum controversé sur le futur statut de la Crimée n'ait pas lieu. Mais les responsables de la République autonome ukrainienne font les derniers préparatifs pour le vote de dimanche sur l'opportunité de rejoindre la Russie. Cette crise a fait l'objet d'autres entretiens, cette fois-ci à Londres, entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov. Les précisions avec vous, Timothée Donangmaï.
Avant d'entamer leur pourparler d'aujourd'hui à Winfield House, la résidence de l'ambassadeur américain à Londres, M. Kerry et Lavrov ont échangé des réflexions à ce sujet.
Obviously, we have a lot to talk about.
Évidemment, nous avons beaucoup à discuter. Je me réjouis de cette occasion d'examiner les questions et les possibilités que nous pourrions trouver pour aller de l'avant ensemble, résoudre certaines de nos différences, et nous sommes impatients d'avoir une bonne conversation, a expliqué le secrétaire d'État Kerry. À présent, la réaction du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Eh bien, je suis également satisfait que nous ayons cette réunion aujourd'hui. La situation dans laquelle nous sommes est difficile. De nombreux événements ont eu lieu et beaucoup de temps a été perdu. À présent, nous devons nous demander qu'est-ce qui peut être fait. Le secrétaire britannique au Foreign Office, William Hague, a lui aussi affirmé que ses pourparlers sont positifs, tout en reconnaissant que la situation est difficile. Bien sûr, nous avons encouragé à la fois le secrétaire d'État Kerry et le ministre des Affaires étrangères Lavrov dans leur travail, Nous les avons encouragés à parvenir aujourd'hui à une percée diplomatique, à une façon de désamorcer les tensions, a dit M. Haig avant de poursuivre que malheureusement la Russie n'a pas pris des mesures réelles pour désamorcer les tensions et cela rend la tâche extrêmement difficile selon le secrétaire au Foreign Office britannique. Les dirigeants américains et européens qualifient d'anticonstitutionnel le référendum prévu en Crimée et appuyé par la Russie et le secrétaire d'État Kerry a averti Moscou qu'il y aura de graves conséquences si la Russie annexait cette péninsule ukrainienne. Mais les responsables russes soutiennent de leur côté que les électeurs de Crimée ont le droit à l'autodétermination suite à l'effondrement le mois dernier du gouvernement pro-russe en Ukraine. Et Moscou a reconnu jeudi avoir déployé des milliers de soldats et du matériel militaire près de la frontière ukrainienne. Tout cela pour des manœuvres militaires qui se poursuivront pendant 2 semaines.
Où est donc passé le Boeing 777 de Malaysia Airlines? Pour l'heure, le mystère reste entier. L'appareil s'est volatilisé depuis le samedi 8 mars dernier avec 239 personnes à bord. Mais il ne s'agit pas de la première disparition d'avion. Jacques Aristide revient sur certains autres incidents qui laissent perplexe.
Ce n'était pas un avion, mais la première disparition aérienne connue remonte à 1856 à Cuba. Une montgolfière dirigée par Matias Pérez décolle de la Havane pour ne jamais réapparaître. Mais le cas peut-être le plus raconté jusqu'aujourd'hui, la disparition d'Amelia Earhart, la première femme à avoir volé en solitaire au-dessus de l'Atlantique pour ensuite disparaître dans le Pacifique en 1937. Autre date, autre mystère, le 5 décembre 1945, 5 appareils militaires décollent de la Floride. Plus tard, les pilotes ne trouvent pas où atterrir et sont contraints d'amerrir. L'un des avions partis à la recherche disparaît également, des incidents qui sont à l'origine de la légende du triangle des Bermudes. Et maintenant, un numéro de vol dit maudit, le numéro 191. Exemple, l'avion expérimental X-15, vol 191, s'écrase en 1967. Idem pour l'American Airlines 191 en 1979. Un crash et du cannibalisme, cela se produit en 1972. Un appareil uruguayen s'écrase dans les Andes, 29 morts, 16 survivants qui se nourrissent des cadavres des autres passagers. Polémique et interrogation, c'est ce qui a suivi la catastrophe du vol TWA-800 tombé dans l'Atlantique après son décollage de New York en 1996. Explosion en raison d'un court-circuit ou tir de missile accidentel, les questions demeurent. Dans l'Atlantique encore, un avion d'Egypt Air faisant le trajet New York-Le Caire s'écrase en 1999. Tous les 217 passagers et membres d'équipage périssent. L'enquête américaine blâme le copilote présumé suicidaire en évoquant son ultime vol. Mais les Égyptiens, eux, parlent plutôt d'une défaillance mécanique. Et pour clore cette liste non exhaustive, la disparition de l'Airbus A330 en 2009 dans l'Atlantique. À son bord, 288 passagers et membres d'équipage. Le rapport final indique la confusion totale dans le cockpit après la déconnexion du pilote automatique. La cause, des cristaux de glace ayant affecté les capteurs de l'avion. L'appareil de Malaysia Airlines rejoint donc ses disparitions les plus étranges, des énigmes encore à percer.
Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la planète, estime que la philanthropie comme la technologie dépend de l'innovation pour de meilleurs résultats. C'est ce qu'a déclaré le milliardaire hier à Washington. Selon lui, l'innovation est l'œuvre des entreprises privées, mais seuls les gouvernements peuvent apporter des améliorations sociales plus importantes. Michel Joseph nous en dit plus.
Beaucoup diront que les inventions de Bill Gates ont eu le plus grand impact sur la vie des gens au cours des dernières décennies. Il travaille à présent à améliorer la vie des gens dans d'autres domaines. Sa fondation, Bill et Melinda Gates, est en première ligne pour combattre la pauvreté et de nombreuses maladies mortelles. Devant l'Institut américain pour l'entreprise à Washington, M. Gates a expliqué que son travail philanthropique se concentre dans les domaines dans lesquels les gouvernements ne peuvent pas couvrir. Cela concerne de nouveaux programmes sociaux que le gouvernement ne peut pas, de par son mode de fonctionnement, mettre en œuvre de façon innovante, essayer de nouvelles choses comme le fait la philanthropie. Les gouvernements n'ont pas les ressources en temps et en argent pour y arriver, comme le peut la philanthropie. Bill Gates explique que les œuvres caritatives jouent un grand rôle en Amérique. Il observe que les universités produisent les professionnels les plus brillants qui, en retour, apportent un soutien financier à ces universités. Selon lui, les institutions de fonds privés produisent aux États-Unis des inventions qu'aucun gouvernement ne peut produire. Exemple, avec la fondation de la Marche des Centimes et son combat pour éradiquer la polio. Cette fondation a financé le développement de deux vaccins. Cette fondation a créé le vaccin contre la polio, ce qu'on utilise pour éradiquer cette maladie, qui est la deuxième maladie en voie d'éradication après la variole. C'est un vaccin contre la polio. Ce sont 10 doses qui coûtent 1,30 $ par enfant. Ça, c'est l'argent de la philanthropie. Mais Gates affirme que la philanthropie ne peut pas substituer au gouvernement pour accomplir de plus grandes améliorations sociales dans le domaine de la santé publique, l'éducation et l'emploi, entre autres. C'est le rôle du gouvernement d'agir pour une vie meilleure, a-t-il souligné. Le Kalakuta Museum, musée situé à Lagos au Nigeria, est dédié au grand musicien nigérian Fela Kuti. C'est l'ancien domicile de Fela, la fameuse Kalakuta République, qui a été transformée en musée sur 3 étages grâce à un financement de l'État de Lagos. Ce musée, véritable mausolée à la gloire de Fela, retrace son parcours musical, sa vie personnelle, mouvementée, ainsi que son engagement politique. Au micro d'Ali Cabré, notre correspondant à Lagos, Obi Okoli.
The major difference is right now is a museum. Whereas before it was actually Fela's residence.
La différence majeure, c'est que l'ancien domicile de Fela a été transformé en musée. Aujourd'hui, Fela n'est plus et plus aucun membre de sa famille n'habite ici. C'est maintenant un musée, mais tout le dispositif est resté le même. La chambre de Fela est toujours là, sa douche, ses habits, tout est resté intact. C'est un peu comme s'il était juste sorti pour revenir.
Quels sont les genres de personnes qui viennent ici généralement?
Tourists come here, journalists. You also have people who are politically inclined.
Les touristes viennent, mais aussi les journalistes et puis les personnes intéressées par la politique. Elles viennent chercher une sorte de motivation. Grâce aux journaux de l'époque, elles revivent les problèmes traversés par Fela jusqu'au procès qu'on lui a intenté. Et les gens viennent vraiment ici en quête d'inspiration.
C'est pas seulement les Nigériens qui sont là, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent pour cette même vision d'inspiration et tout.
Yes, all sorts of people come, you know, because the story of Fela goes beyond him.
Oui, tout à fait. Des personnes très différentes viennent ici. Vous savez, l'histoire de Fela va au-delà de sa propre personne en tant qu'individu. L'histoire de Fela touche bien plus profondément. Quand vous lisez sa biographie, vous vous rendez compte que la musique avait beaucoup d'importance pour ses grands-parents et que sa mère fut la première femme à conduire une voiture au Nigeria. Donc les gens viennent du monde entier pour toucher du doigt la vie de cet illustre homme qui a sacrifié sa vie. Qui a donné sa vie pour ses combats politiques. Quand les gens vont en Afrique du Sud, ils font un pèlerinage sur la tombe de Steve Biko. Lorsqu'ils viennent au Nigeria, un des pèlerinages politiques, si je puis dire, c'est de venir au Kalakuta Museum.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont impressionnés par la vie de Fela et qui voudraient venir visiter ce musée, Kalakuta?
As far as the history of the black man is concerned, The Kalakuta Museum plays a very vital role in anybody's research. Because Nigeria being the most populous black country.
Si vous vous intéressez à l'histoire de l'homme noir, le Kalakuta Museum est un arrêt obligatoire. Le Nigeria étant le pays le plus peuplé de noirs dans le monde, et Fela ayant été un fer de lance pour l'émancipation de l'homme noir, il est plus qu'indiqué pour toute personne qui entreprend ce type de recherche sur l'histoire politique de l'homme noir de venir au Kalakuta Museum. Parce que les connaissances que vous allez acquérir ici vont vous permettre réellement de comprendre ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer au Nigeria et dans la diaspora.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique, c'est l'heure de sport et j'accueille Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Et bonsoir Bagassi. Et
on commence par les femmes qui sont à l'honneur ce soir avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde des cadettes.
Et oui Bagassi, cela se passe au Costa Rica et le pays hôte affronte le Venezuela. Les Zambiennes auront fort à faire face à l'Italie. Le Ghana sera opposé à la Corée du Nord. Enfin, l'Allemagne sera également en lice ce soir.
Et c'est bien en football, hein?
Et tout à fait, oui.
Okay. Parlons à présent de ce coup de tonnerre dans le foot allemand.
Et oui, Uli Hoeneß, le président du Bayern Munich, condamné hier à 3 ans et demi de prison ferme pour avoir fraudé le fisc de plus de 28 millions d'euros, a annoncé sa démission du prestigieux club de football allemand. Il a également indiqué dans un communiqué qu'il renonçait à ce pourvoir en cassation, acceptant de facto de purger sa peine de prison.
Et Sochi en Russie, c'est fini, mais il faut déjà penser aux prochaines Olympiades de 2022.
Et à ce sujet, les 5 villes en course pour les Jeux d'hiver de 2022 ont bien envoyé au Comité international olympique leur dossier de candidature. 5 candidates, donc, vivent en Ukraine, mais aussi Oslo, Cracovie, qui est la tête d'affiche d'un duo Pologne-Slovaquie, Almaty au Kazakhstan et enfin Pékin.
Voilà, on ne déroge pas à la règle. Après les sports, la musique et à nos côtés, Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. L'artiste Ferrigola a une autre passion, à part faire de la musique. Il aimerait devenir un acteur, il a dit dans une récente interview. On écoute sa chanson ici, Checkle Pété, avec le célèbre acteur Phil Darwin.
Ferrigola, Mister Loba Loba. Laisse ma tribune internationale.
Toujours fatigué à ce suspect.
A Petit Nicomis. Le meilleur gardien Mandanda.
Ferrigola, dis à la fila que son maïla est suspect.
Le président de tout pour sa mansèque. Moïse Katoum, toujours en action. Le conseiller.
Il va à la pharmacie tous les jours là pour la vie, là c'est suspect. Ferrigola, dis-lui, dis-lui.
Si, il a oui. Quand est son courage.
Ma chérie, qui a cette
tête.
Ma meilleure copine, c'est pas gentil. Les hommes vraiment là-bas, si donnez les câlins.
Charles Cabana.
Voilà, alors dans ce titre, on retrouve l'acteur Phil Darwin, originaire du Congo-Brazzaville. Alors Phil Darwin s'installe en France après un long séjour en Algérie et c'est en France qu'il découvre l'art de faire rire les gens à travers son idole Eddie Murphy.
Voilà, Eddie Murphy. Exactement, Morgan, un acteur incontesté de la génération stand-up. Ferrigola a beaucoup aimé le spectacle de Phil, Made in Africa, et lui a proposé de collaborer dans Checkle Pété.
Mon fleuri.
Bamba immeuble Eric Sassala.
Check le bête.
Chiquito tout samba ya breken bayaka.
Check le bête.
Voilà, c'était Ferré Gola, Tchékélépété. Merci Roger.
De rien Morgane.
Voilà Roger Muntou que vous suivez tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel.
Voilà, c'est donc sur le Tchékélépété, c'est bien ça Roger, qu'on va achever le monde aujourd'hui. Merci à Lionel Gaïma qui a assuré la production. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique, au micro Bagassi Koura
et Morgane Guiriec.
On se retrouve dans une demi-heure.